Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Arnaud Ducret pour toujours plus de plaisir, évidemment, puisqu'il est au Grand Rex 2.
Pour le plaisir.
Ah non, hein.
Herbert Léonard. Organe, hein.
Je vais tourner avec Herbert Léonard, d'ailleurs, je fais un film là avec Louis Bourgoin. Et dedans, il y a Herbert Léonard qui va intervenir, ça me fait rire de.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Et le triomphe.
Et bien, pour notre plaisir, nous retrouvons maintenant à la une Cyprien Cini.
À la une, le web de Cyprien Cini.
Cyprien, je n'en reviens pas. Ce matin, vous nous annoncez qu'on va enfin pouvoir manger des tomates toute l'année, mais des tomates qui ont le goût de tomates.
Et oui, c'est de plus en plus rare, trop rare. Même 90% du temps, quand vous mangez une tomate, elle n'a pas de goût. Alors évidemment, si on arrêtait de les manger en hiver, achetées en grande surface à un prix dérisoire, ça serait déjà un bon début. Mais vous savez très bien que ce n'est pas si simple que ça. Et même l'été, la plupart des tomates sont fades, la faute aux insecticides, engrais, etc. utilisés pour optimiser la production. Alors, face à cette tomate qui n'a plus de tomate que le nom, des scientifiques de l'Université de Floride ont décidé de reprendre les choses en main. Ils ont analysé l'ADN de 398 tomates sauvages pour finalement trouver et isoler les gènes du goût de la tomate.
Il y a les mecs des oreilles. Hein.
Mais non, mais ils en ont trouvé. Ah non, mais c'est hyper important. Attends, ça pourrait rapporter un max d'argent. Ils en ont trouvé 5 ou 6 de gènes qui sont responsables du goût de la tomate. Ils les ont isolés et ils ont injecté dans des tomates industrielles toutes fades. Et là, bingo, les tomates ont retrouvé leur saveur d'antan. Incroyable. Alors, il va falloir attendre encore un peu de temps avant de développer ce système à grande échelle. Mais la tomate mutante OGM pourrait donc devenir bien meilleure que la tomate classique. Et donc, ça, c'est l'avenir, l'OGM.
Bravo.
Et pendant ce temps-là, l'horloge de l'apocalypse a été avancée de 30 secondes.
Oui, tout va bien. En fait, l'horloge de l'apocalypse n'existe pas vraiment. C'est une horloge symbolique créée en 1947 par des membres éminents de la communauté scientifique mondiale. Aujourd'hui, par exemple, ce sont entre autres 15 anciens prix Nobel qui s'en occupent. Bref, sur cette horloge, minuit symbolise le cataclysme. Et l'heure nous donne le temps restant avant d'arriver à minuit. Et chaque année, en fonction des événements, armes nucléaires, changement climatique, pandémie, les scientifiques modifient l'heure qu'il est avant minuit. Par exemple, en 1953, au summum de la guerre froide, il était 23h58. Alors qu'en 1991, avec la fin de l'URSS, ça allait beaucoup mieux. Ils avaient reculé l'horloge, elle était à 23h43. Mais cette année, on est donc très mal puisque les scientifiques ont décidé de nous avancer de 30 secondes. Il est donc 23h57 et 30 secondes.
Voilà.
Oui, on est à 2 minutes 30 de la fin de l'humanité. Et si on a avancé 30 secondes, selon les scientifiques, c'est de la faute de Donald Trump. Oui, l'accession à la Maison Blanche du milliardaire. Absolument. Ça a affolé le comité, qui a donc décidé d'avancer l'horloge de 30 secondes. Et le pire, c'est que cette décision a été prise juste après l'élection, avant les derniers décrets pris par le président américain.
Il a pris une minute, là.
Autant vous dire qu'on a pris une minute et qu'on n'a plus qu'à une minute de l'apocalypse. Donc il va falloir se dépêcher.
Malgré tout, quand même, Cyprien, l'humanité peut garder un peu d'espoir.
Ah oui, car l'être humain peut faire preuve de capacité de survie hors du commun. Ça se passe à l'université de Newcastle, en Grande-Bretagne, où un groupe de chercheurs a décidé d'étudier les effets de la caféine sur l'organisme. Ils ont fait leur petit calcul savant sur la dose de caféine à injecter aux volontaires, procédé à l'injection, et là, les deux cobayes ont commencé à se sentir mal, très très mal. Les chercheurs ont donc repris leur calcul, et là, la boulette, en fait, ils ont injecté une dose de caféine 100 fois supérieure à ce qui était prévu. En fait, une tasse de café contient 0,1 g de caféine. Pour le test, il fallait 3 tasses de café, 0,3 g de caféine, et en fait, ils l'ont injecté 30 grammes, soit l'équivalent de 300 cafés d'un seul coup.
Mais c'est mortel, c'est une dose presque létale.
Une dose normalement létale. Hein,
et alors
comme le précise Science Post, le seul homme connu. Mais non, je vous la raconterai
l'histoire.
Laissez-le tranquille.
Le seul homme connu à avoir succombé à une overdose de café s'était arrêté à l'équivalent de 180 tasses. Voyez. Donc là, ils ont pris 300. Et petit miracle, donc, en fait, les deux hommes étaient en parfaite condition physique, ce qui a permis de les sauver. Les deux cobayes ont quand même perdu 10 kilos chacun dans l'histoire, mais ils ont récupéré un peu d'argent, car pour son erreur de calcul, l'université a dû leur verser 470 000 euros de dommages.
Attendez, ça fait maigrir le café ?
Non, mais comme on était très malade.
Les deux mecs, c'était Georges Clooney et Jean Dujardin.
On l'a refait. Ils ont dû leur injecter un antidote, forcément.
Ben non, ils sont restés un moment à l'hôpital, ça a été très compliqué, mais ils ont sauvé.
On les a sauvés.
Merci beaucoup, Cyprien Cini. Ah là là, bon, on va revenir à Arnaud Ducret dans un instant. Et puis on va parler des personnages, on va parler de votre vie aussi, parce qu'on a appris plein de choses sur vous.
Ah, ah ouais.
Vous écoutez RTL.